Alors, imaginez qu'un ami vous invite pour un week-end au vert. Clé en main, rien à préparer, rien à faire. Tout est prévu pour un repos bien mérité. Seulement, à l'arrivée, le lieu a déjà été investi par d'autres. C'est que je n'ai pas pu faire autrement que de les accueillir, dit votre ami. Ils n'avaient nulle part où aller. C'est ce que nous raconte, entre autres, le texte que nous venons de lire. Et en tout cas, c'est une situation analogue à celle-ci que les disciples ont vécue. Alors, promesses non tenues, tromperies, désillusions, amertume. Ce texte de 5 versets n'est pas celui que l'on citerait volontiers parmi les récits marquants de l'évangile de Marc. Ce texte, quand on le regarde dans ce chapitre 6, il est un petit peu coincé, je dirais même écrasé, entre deux temps très forts, que sont l'envoi en mission des 12, on a vu ça la semaine dernière avec Michaël, sans oublier aussi les circonstances de la mort de Jean-Baptiste qui prennent un certain nombre de versets, et puis, juste après, la multiplication des pains. Avant de regarder, en tout cas de plus près, ces versets, je vous propose d'abord quelques réflexions sur l'évangile de Marc. On restera sur l'évangile de Marc ce matin, sans aller sur d'autres textes de la Bible, ce qui serait une possibilité. Marc est économe en mots. Il ne brode pas, il va à l'essentiel, il raconte et il semble même pressé. Vous regarderez le nombre de fois où on trouve le mot « aussitôt » dans cet évangile. Mais même si cet évangile semble avoir été le premier écrit sur la vie de Jésus, sa rédaction ne vient que plus de 30 ans après la fin du ministère de Jésus. On peut imaginer qu'entre-temps, la vie de Jésus, elle était contée, racontée, sûrement par des témoins directs. En fait, c'est comme si, petit à petit, le texte que nous avons avait pris sa forme définitive. Vous savez bien pour vous-même qu'il y a une différence quand vous lisez un texte simplement avec les yeux et quand déjà vous le dites à haute voix. Mais ce qui est encore plus puissant et prenant, c'est quand le texte est dit, c'est-à-dire qu'il a été appris par cœur par quelqu'un et il est parlé. Alors il est encore plus à entendre et à écouter. Quelques-uns étaient là il y a quelques années de ça, ici dans cette salle, les groupes bibliques universitaires avaient organisé une soirée Marc l'expérience. C'était un petit peu particulier, il n'y avait pas de costume, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de décor. Je me souviens de quelques accessoires, en particulier un marteau qui plantait les clous de la croix. J'ai encore le souvenir de ce bruit. Les sièges des spectateurs étaient disposés en cercle concentrique, avec comme une petite place au centre. Et puis, par-ci et par-là, il y avait des passages ruelles, pour favoriser la fluidité des actions, le passage des acteurs, des personnes. Ainsi, le temps d'une soirée, la vie de Jésus et ses 3 ans de ministère défilent là devant vous, dans les oreilles et dans le cœur des participants, et c'était vraiment une expérience saisissante. En fait, une soirée, c'est 2 heures. Et c'est ce qu'il faut pour lire l'évangile de Marc, les 16 chapitres de l'évangile de Marc, ou pour l'écouter. Et forcément, on se dit que Marc a fait des choix, parce que c'est 3 ans de vie de ministère qui sont concentrés dans ces 16 chapitres. Il a dû faire des coupes. Il a sûrement privilégié tel ou tel événement. Il a décidé d'agencer son récit d'une certaine façon. Et il a laissé tellement de moments de vie sous silence. En tout cas, pour moi, ça me donne de bonnes raisons pour interroger le texte que nous avons. Et puis, de poser mais pourquoi et comment ça se fait pour aller un petit peu plus loin peut-être, pour comprendre. En fait, on va faire ça un petit peu ce matin, d'être des curieux, des avides ou des gourmands. Une promesse qui ne semble pas tenue, c'est ce que nous avons lu précédemment dans ce texte proposé ce dimanche à la méditation des églises chrétiennes. Jésus invite à un temps de repos, à l'écart, dans un lieu désert. Alors, si le voyage, comme nous l'avons lu, en barque se passe bien, si le lieu est vraiment isolé, en fait, il est déjà envahi par la foule qui, depuis un certain temps déjà, se presse autour de Jésus et de ses apôtres. Quand je dis cette foule qui se presse, je suis en dessous de la vérité. En fait, la foule les presse. J'ose même dire qu'elle les étouffe, presque au point qu'ils n'ont même pas le temps de manger. Nous-mêmes, on peut vivre ou avoir vécu des situations de ce type où nos projets, nos besoins légitimes ont dû passer en deuxième plan devant l'urgence d'une situation. De quoi interroger, en fait, ce qui fait nos motivations et le fil rouge de notre vie. Donc Jésus ici organise cette mise au vert alors que les apôtres ne semblent pas épuisés. Ils sont plutôt dans l'euphorie. Ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. C'est qu'ils reviennent de mission, et ça, Michaël nous l'a rappelé la semaine dernière, envoyés deux par Jésus. Ces deux tout nous invitent à imaginer ce qu'ils ont vécu au cours de ces journées où, après avoir reçu autorité sur les esprits impurs, ils ont proclamé qu'il fallait se convertir, ils ont chassé beaucoup de démons, ils ont fait des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les ont guéris. On se prend à les envier. Autant de réussites et de résultats incroyables alors que c'était leur première mission, mais qui n'en rêvent pas. Quel impact ils ont eu. Sans être rabat-joie, derrière ces tout, j'imagine aussi pour ces apprentis missionnaires l'angoisse du trajet jusqu'au premier village, la première prise de parole, le premier démon à déloger, le premier malade à guérir, le doute, les doutes, les craintes, les échecs. Il y a aussi le fonctionnement du binôme, les caractères qui s'opposent, les stratégies non complémentaires. Et pourquoi pas les jalousies lorsque l'un réussit mieux que l'autre. Les interrogations sur la justesse de leur annonce, l'annonce de la bonne nouvelle. Dans nos vies de témoins, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri, nous non plus. Chaque fois que nous partageons notre espérance, que nous disons ce que la présence du Christ insuffle dans nos vies, nous le faisons certes, avec cette certitude d'être et d'avoir été missionnés, mais pour autant, notre vulnérabilité et notre faiblesse nous coupent parfois les élans, ou coupent nos élans. Glissons-nous un petit peu avec les douze, voulez-vous ? Là, vous les entendez se presser autour de Jésus ? Imaginons ce que Marc aurait pu retracer comme dialogue. Alors nous, avec Barthélemy, dans un village, on a dû secouer la poussière de nos pieds, en témoignage, comme tu nous l'avais recommandé, car il refusait notre message. Tu sais, il y avait une femme muette, et Thaddée l'a ointe d'huile, et elle s'est mise à louer Dieu. À louer Dieu, elle, la muette. C'était fou, tous ces gens demandant à André ce qu'il fallait faire pour changer de vie. Oui, les disciples veulent tout dire, tout raconter, un peu comme les enfants de retour à la maison qui ne vous laissent pas en paix, tant qu'ils n'ont pas tout dit eux aussi. Seulement, en fait d'enfant, C'était 12 gaillards dans la force de l'âge, avec métiers, femmes, enfants pour la plupart. Mais ils avaient ce besoin de rendre compte et de rendre compte en détail. Et ça, j'aime bien cet empressement. Cet empressement à raconter que nous pouvons nous aussi faire notre dans nos temps de prière de fin de journée. Curieusement, dans ce récit de Marc, Jésus ne dévoile rien de ce qu'il ressent. Vous avez vu, il ne donne pas de conseils, il ne distribue pas de satisfecit, il ne semble ni se réjouir, ni s'étonner. Non, il propose juste un temps de repos à l'écart dans un lieu désert. Mais qu'a-t-il vu pour agir ainsi ? C'est vrai, on l'a déjà souligné, il y avait beaucoup de monde qui venait et qui repartait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Cette foule, on la voit se former, grossir au fil du récit, s'épaissir, envahir, accourir le soir tard, le matin, de loin, au point que Jésus lui-même la fuit en se levant de bonne heure avant l'aurore pour prier. Dans la proposition de Jésus de temps de repos, il y a sûrement plus que l'intention de retrouver une hygiène de vie en respectant les temps de repos et les temps de repas, même si cela est important. Nous-mêmes, nous avons pu vivre des temps forts, exceptionnels, exaltants, ces temps qui ont comme un avant-goût du ciel, ces temps que l'on aimerait suspendre et prolonger, temps de retraite spirituelle, de séjour de vacances entre frères et sœurs, là-haut, sur la montagne, bien au chaud. Oui, mais voilà, il y a le retour à la réalité, au quotidien, au banal. Peut-être ici, dans ce texte, Jésus anticipe ce risque de désillusion, l'épuisement qui se cache derrière l'excitation et l'euphorie. Les disciples ont approché au plus près la misère humaine et ils peuvent être, dans les prochains jours et à retardement, déstabilisés par des flashbacks troublants qui ne manqueront pas de les assaillir. Jésus propose donc un temps à l'écart, dans un lieu désert, pour se reposer un peu. Et vous avez noté que personne parmi les 12 ne refuse la proposition, à croire que Jésus les avait peut-être bien devinés. Donc, trajet en barque, l'endroit isolé est en vue, lieu retiré, mais envahi, par une foule nombreuse, venant de partout, de toutes les villes, de toutes les bourgades, par grappes, accourant à pied. C'est qu'ils ont repéré la barque de Jésus et des disciples, et même le lieu où ils allaient. Et ils arrivent avant eux, en courant à pied. Ils vont plus vite que leur barque. Marc aurait pu décrire les visages des 12 qui sont en train de se décomposer à mesure qu'ils prennent conscience de la situation. Vous les imaginez, ces visages ? Par contre, Marc a bien décrit précédemment l'origine, l'irruption, je dirais, de cette foule. Et là, je vous invite à un petit marathon en parcourant dans son évangile les chapitres précédents. Déjà, Jean-Baptiste a attiré au désert une foule nombreuse de Judée et même de Jérusalem. Jésus, lui, c'est en Galilée qu'il commence à enseigner. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle, dit-il. Il va dans les synagogues, dans les maisons, il proclame ce message avec autorité, il impressionne, il chasse les démons, il guérit des malades, beaucoup de malades, et sa renommée se répand partout. Et on accourt. Toute la ville est là, à se presser à la porte, le matin et le soir, à tel point que Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville. Il restait donc en dehors, dans des endroits inhabités. Mais de partout, on venait à lui, car la foule n'avait jamais rien vu de pareil. C'est comme un vol des tourneaux, impressionnant. Dedans, dehors, dans les champs, au bord du lac, il n'y a rien qui la contient. La foule est là, elle se presse, elle presse Jésus et les disciples, et ils ne parviennent même pas à manger. Parmi cette foule, il y a aussi les siens, sa famille, venus pour le ramener à la raison, car ils pensent qu'il est devenu fou. Et puis parce qu'en haut lieu, on s'inquiète de cette popularité, il y a des pharisiens et des partisans du roi qui se glissent dans la foule, et certains, déjà, pensent à le faire mourir. Et Jésus continue à enseigner, à parcourir le village, à guérir, à ramener à la vie une fillette, à affirmer sa suprématie, même sur les éléments. N'a-t-il pas calmé une tempête, occasionnant chez les disciples la frayeur de leur vie? On avait vu ça fin juin, quand il y avait Philippe de Paul. Dans notre texte, au verset 34, lorsque Jésus descend de la barque, on attend sa réaction, alors qu'il se trouve face à cette foule. Va-t-il la chasser ou rechercher un autre lieu, désert, mais vide de foule? Le texte nous dit, Jésus voit une grande foule, nombreuse, une grande multitude. Jésus voit aussi au cœur. Il voit ce qui pousse cette foule à le poursuivre. Jésus n'esquive pas l'attente. Jésus est ému, pris de pitié et de compassion pour elle. Il est touché. Jésus devine le désarroi, la perte de repère, la perte de projet de cette foule privée de guide. Marc écrit que pour Jésus, cette foule est comme des brebis sans berger ou sans pasteur. La foule perdue nous interroge aussi. Lorsqu'elle vibre ou pleure pour un ballon ou un match perdu, ou lorsqu'elle semble courir après des chimères proposées à bon compte par des influenceurs. Ici, cette foule est déboussolée, perdue, avide de soins et d'aide et de paroles de réconfort. On sent qu'elle n'a pas d'ancrage, pas de base. Elle va ici et puis là. Elle a faim de sens. Elle a aussi besoin de repos, de renouveau. Et du coup, elle est aimantée par Jésus. Oui, me voilà, c'est moi le bon berger. Venez, suivez-moi, comme des brebis, des moutons que vous êtes. Ce n'est pas du tout ce que nous dit le texte et ce n'est pas du tout ce que fait Jésus. Il ne se pose pas en gourou qui sait et fait tout pour le compte de la foule à sa place. Il n'endosse pas cette position de celui qui, sans écouter, décide ce qui est bien et nécessaire et donc qui a servi. Non, Jésus prend le temps d'enseigner la foule longuement et sur beaucoup de choses. Nouvelle petite remarque à Marc, au passage, tu aurais pu donner plus de détails sur cet enseignement, sur son contenu, plutôt que de te contenter d'écrire sur beaucoup de choses. Sûrement que pour cet enseignement, Jésus reste dans la continuité de ce que Marc a déjà consigné concernant la parole, la bonne nouvelle de Dieu. C'est-à-dire que le moment favorable est venu et que le règne de Dieu est tout proche, qu'il fallait donc changer de vie et croire en la parole de Dieu. De la méditation de la parole que nous venons de faire à la prière, il n'y a qu'un pas. Alors pour terminer, si nous utilisions quelques-unes des pépites de ce texte pour enrichir nos temps personnels de prière par la relecture de nos journées. Je vous propose trois pistes. D'abord, à notre tour, comme les disciples, nous pouvons dire au Seigneur tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons dit ce jour. Lui dire tout ce que nous n'avons pas fait et tout ce que nous n'avons pas dit. Lui confier tout ce que nous regrettons d'avoir fait et tout ce que nous avons mal fait. Et le laisser nous inviter au repos. Ainsi, Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, s'il te plaît. Nous pouvons aussi revisiter ce jour alors que nous étions là dans la foule, ayant peut-être oublié que nous avons un berger en la personne du Christ. Nous pouvons nous remémorer ce qu'il a dit de sa bienveillance, de son pardon, de sa grâce et de sa compassion. Se laisser aussi appeler par son nom, par le berger des brebis, et trouver un peu de repos. Et dire, Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, s'il te plaît. Autre proposition, ça serait relire devant Dieu cette journée à la dimension de notre vie d'homme et de femme. Journée qui mériterait 5 lignes ou 5 petits versets dans notre biographie éventuelle. Ou journée à passer sous silence, à oublier. Journée sans saveur particulière, mais pour autant, journée vécue, consciemment ou non, dans la présence aimante de notre Dieu. Journée, en tout cas, avec laquelle nous voulons nous réconcilier pour trouver le repos. Alors, Seigneur, merci. Seigneur, pardon. Seigneur, s'il te plaît. Amen.